Bien, eh bien, bonsoir à tous. Vous allez bien? Moi aussi, comme disait l'autre. Et ce soir, on va étudier parce que nous mettons de l'ordre dans la communauté et nous établissons les choses de façon à ce que de façon à ce que le Seigneur soit glorifié et que nous n'ayons pas à nous illusionner au sujet de prétention quelconque. Amen.
Amen.
Alors nous prions d'abord. Jésus, nous te demandons de venir à notre secours pour que nous sachions bien comprendre ta parole. Et je sais, Seigneur, que je m'adresse à mes frères et sœurs de la communauté filiale du sanctuaire, mais aussi qu'il y a d'autres personnes qui viennent. Je te prie de les bénir. Je ne sais pas quelles sont leurs difficultés, leurs problèmes, mais je sais que cela peut aider, même des pasteurs qui peuvent écouter cela, afin de pouvoir mettre de l'ordre là où le désordre s'est établi. Merci Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis sur Facebook un nouveau truc maintenant, c'est que les pasteurs, enfin pas les pasteurs, c'est une minorité, qui sautent à pieds joints sur leurs fidèles. Alors on a eu tout, hein, les ricanements de hyènes, les roulages par terre, et maintenant on saute sur les fidèles. Bon. Voilà, moi je ne reconnais pas mon Jésus là-dedans. Donc en famille, nous étions. Nous avons visité le musée du désert. C'est quelque chose qu'il faut voir. C'est dans les Cévennes, c'est dans une maison qui a appartenu à un homme qui avait pour nom Roland. En fait, il ne s'appelait pas Roland, il s'appelait Pierre Laporte, mais c'était son nom de combattant, c'est un résistant, un homme qui résistait pendant la persécution sous Louis XIV. Vous savez que il y avait eu des massacres terribles là-bas, mais il faut savoir que ça a commencé à cause d'un prophète encore qui a lancé l'idée qu'il fallait aller délivrer des chrétiens qui étaient retenus chez un prêtre qui, il est vrai, était une véritable un tortionnaire. Mais ça a dérapé, et puis ils ont massacré le curé, il a eu 53 ou 50 coups de couteau, et c'est de là que Louis XIV a envoyé 23 000, je crois, hein, chéri, 23 000 soldats pour faire la guerre aux protestants, mais d'une façon, c'était sanglant, c'était sanglant. Tous les protestants ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé là-bas, mais encore une fois de plus, c'est le prophétisme qui a dérapé. C'est vraiment terrible cette histoire, c'est vraiment terrible. Et y en a eu d'autres, on a vu d'autres choses encore au sujet des prophètes qui dérapent. Et nous devons faire attention, nous ne devons pas mépriser ni le don de prophétie, ni les prophètes, mais nous devons faire attention parce que ça peut être très destructeur. Nous devons faire très attention. Je vous invite à lire Matthieu chapitre 4, verset 4. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit n'arrêtez pas de prophétiser, parce qu'il y en a qui disaient bon, autant arrêter ça, parce que ça cause tellement de problèmes. Mais il dit non, non, ce n'est pas parce que ça pose des problèmes. Ce qu'il faut, c'est être sage, être structuré comme les Écritures le veulent. Matthieu 4, 4. Alors, je lis. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La grande règle du ciel est que jamais rien ne se fasse sur la terre sans que le secret n'en soit révélé aux serviteurs de Dieu, les prophètes. Ça, je vous l'ai chanté depuis des siècles, hein. Depuis le début qu'on est ici. Mais il y a un ordre établi dans l'Église. Comme je vous l'enseigne donc depuis des décennies, nous sommes dans les derniers jours, mais ça ne veut pas dire que nous sommes à la fin du monde. Les apôtres disaient déjà, nous sommes dans les derniers jours. Les derniers jours, c'est les jours qui suivent l'ascension de Jésus. C'est les derniers jours. À partir de là, c'est les derniers jours. Mes frères et sœurs, les richesses de l'éternité sont de nouveau à la portée de ceux qui sont disposés à vivre de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et pas seulement de la parole qui est écrite dans la Bible. C'est clair? C'est clair. Quand vous pensez à tous ces prophètes qui nous ont précédés, eh bien, c'était la parole de Dieu, elle sortait de leur bouche, pas d'un bouquin. Hein? D'accord. Bien sûr, nous avons un livre, c'est très bien et c'est sain. Mais nous devons être disposés à vivre de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu et pas seulement de celle qui est écrite dans la Bible. Si vous regardez en arrière dans l'histoire de l'Église de Jésus-Christ, vous verrez que Dieu a toujours guidé son peuple et son Église par la révélation. Et nous, au XXIe siècle, nous qui aimons la parole de Dieu, nous croyons tout ce que Dieu a révélé, et nous croyons aussi tout ce qu'il révèle maintenant, et nous croyons qu'il révélera encore beaucoup de choses grandes et importantes concernant le royaume de Dieu. Vous savez que, justement, les protestants et les évangéliques par la suite ont dit « Maintenant, la révélation s'est terminée, tout est dans la Bible, point barre, point final. » Et alors, voilà. Toute la révélation est dans la Bible. Comment se fait-il que tous se contredisent en ayant le même livre? Il y a quelque chose qui n'est pas juste là. Il y a quelque chose qui est bizarre. La révélation, elle continue, mes frères et sœurs. Nous croyons tout ce que Dieu a révélé. Nous croyons que tout ce que Dieu révèle maintenant. Et nous croyons encore dans tout ce qu'il va révéler dans l'avenir. Mes frères et sœurs, on ne peut comprendre les choses de Dieu, les choses des cieux, autrement que par révélation. On ne peut pas comprendre autrement. Vous et moi, ainsi que tout le monde, on peut parler de choses spirituelles, on peut s'exprimer, on peut exprimer des opinions à l'infini, mais ça n'est pas l'autorité. Ça n'est pas l'autorité. Nous, au sanctuary, nous croyons que la doctrine de la révélation est de loin supérieure à la doctrine de la non-révélation. Je dis ça parce que dans le milieu évangélique, donc, on dit, voilà, la révélation entière a été donnée. C'est pourquoi vous avez des dénominations qui disent, nous avons le plein évangile, ou la pleine lumière. Et si vous voulez apporter quelque chose de différent de ce qui est dit, alors on vous taxe d'anti-biblique, même si ce qui est dit est écrit dans la Bible. Voilà. Mais prenons déjà rien que le salut. Le salut. Le salut ne peut venir dans le cœur d'une personne autrement que par une révélation. Une personne, elle va entendre la parole de Dieu, c'est Dieu qui va se révéler au travers de la bouche d'un porte-parole. N'est-ce pas ? Et la personne peut se repentir, la personne peut se convertir, c'est-à-dire changer de façon de vivre, ça c'est sa part. La part de Dieu, c'est de faire naître de nouveau cette personne et de lui donner le témoignage intérieur de l'assurance de son salut. On ne peut pas négliger ça. Le Saint-Esprit doit témoigner à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Ce n'est pas par l'enseignement, c'est par la révélation que vous obtenez ce témoignage. Ça n'a rien à voir avec l'enseignement. Vous pouvez enseigner mille fois les choses au sujet du salut. S'il n'y a pas révélation, c'est comme si vous parliez dans le vide. La personne, elle va avoir une doctrine. Elle va se conformer à la doctrine. Elle va croire être chrétienne parce qu'elle a compris la doctrine du salut, petit a, petit b, petit c. Elle est convertie, mais elle n'a pas la révélation. Elle n'a pas le témoignage du Saint-Esprit dans son cœur, elle n'est pas née de nouveau. Et les églises sont bourrées de gens comme ça. Bourrées de gens comme ça. Et c'est Camélia qui m'avait appris ça. Elle m'a dit, mais la plupart, mon frère, ils sont convertis, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Et je me rappelle l'avoir parlé au pasteur Karambéry à Ouagadougou, c'est l'homme qui a la plus grande église là-bas. Et il m'a dit, mais j'ai tout à fait conscience que ces gens sont convertis, mais pas nés de nouveau. La plupart. Et ça le désolait, mais qu'est-ce que vous voulez y faire? Ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Alors, bien sûr, vous pouvez parler 1000 ans et puis la personne, si ça n'est pas révélé, elle ne peut pas, on peut pas lui en vouloir. Mais maintenant, vous avez des gens qui volontairement opposent une résistance à la révélation de Dieu, à la révélation donnée par l'envoyé de Dieu, parce que Dieu donne les révélations par ses envoyés. Il n'a pas envoyé ses serviteurs juste pour faire joli, hein. C'est pour révéler la parole de Dieu. Vous avez des textes. J'en avais un dans Samuel, 1 Samuel 15, 23, qui est très sévère à ce sujet-là, au sujet de la résistance. Il dit, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Hein? Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphims. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Il a rejeté la parole du prophète. Et il a été rejeté comme roi à cause de ça. Il n'a pas rejeté un verset biblique, il a rejeté une parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pas seulement de la Bible, de la bouche de Dieu. C'est clair? Maintenant, vous avez un autre texte qui se trouve dans Proverbe 1 et verset 32-33 où il est dit. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Alors bien sûr, le mal atteint souvent le juste, comme disait Violette, mais l'Éternel l'en délivre.
Toujours.
Amen. La révélation, quand elle vient dans un cœur, alors c'est que ce cœur est déjà bien disposé à croire. Vous avez vu, même Jésus le dit, si vous voulez vous approcher de Dieu, la première chose, il faut d'abord que vous croyez que Dieu existe. Et personne ne peut croire que Dieu existe si ce n'est pas révélation. C'est quand même terrible ça aussi. Hein? Ça peut paraître injuste. Nous étions là-bas au désert, au musée du désert. Il faut absolument qu'on visite ça ensemble quand on sera là-bas. Dans le sud, on fera un voyage pour aller visiter ça tous ensemble. Et il y a des gens qui sont là pour expliquer les choses. C'est tout à fait magnifique. Et ils disaient que le protestantisme est divisé principalement en deux grandes dénominations. C'est les luthériens et les calvinistes. Mais que les choses qui les divisent, en fait, c'est des doctrines comme la prédestination ou certaines choses au sujet de la Sainte Cène. Mais en fait, en gros, aucun ne peut dire l'autre n'est pas chrétien. On va pas jeter un anathème. Un calviniste va pas dire Luther est anathème ou un luthérien ne va pas dire un calviniste est anathème. C'est pas, ce sont sur des choses qui n'ont pas à voir avec le salut. Mais même le salut, il doit y avoir révélation. Alors, la révélation, quand elle vient, c'est déjà dans un cœur qui est bien disposé à croire. Un cœur qui n'est pas disposé à croire ne peut pas du tout recevoir de révélation. Je voudrais qu'on fasse une lecture dans Apocalypse, chapitre 19, et le verset 10. Il est dit, je tombai à ses pieds pour l'adorer, donc l'ange. Hein. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Nous avons des compagnons de service, les anges, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Si vous avez le témoignage de Jésus, c'est-à-dire si vous avez le témoignage du Saint-Esprit qui témoigne à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu, alors vous avez un compagnon de service, un ange, il dit alors voilà, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie, est du verbe être. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Alors, ça peut paraître un peu confus si on ne sait pas ce que signifie le mot témoignage. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça signifie. Qu'est-ce que l'esprit de prophétie? C'est le témoignage de Jésus. Oui, bon, voilà, c'est une jolie phrase. Mais dites autrement. Afin que le mot témoignage soit bien compris. L'esprit de prophétie, c'est la déclaration de Jésus dans un cœur. L'esprit de prophétie, c'est la déposition légale de Jésus. Voilà ce que c'est un témoignage. C'est quelque chose de légal. c'est un témoignage, c'est, il rend témoignage, il donne son, le témoignage, le, il met le sceau, si vous voulez. Eh bien, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Si vous avez le témoignage de Jésus, vous avez déjà l'esprit de prophétie parce que vous avez la révélation. Et quelqu'un qui a la révélation, déjà, il lui faut cet esprit-là de prophétie, c'est-à-dire pouvoir entendre la parole de Dieu dans son propre cœur et non pas simplement se bourrer le mou avec quelqu'un qui nous enseigne et qui nous dit « Mais vous êtes sauvés parce que Jésus a donné sa vie pour vous, vous devez le croire, si vous le croyez, vous êtes sauvés, est-ce que vous avez bien compris ? Oui, j'ai compris, bon, alors qu'est-ce que tu peux dire ? Mais je peux dire que je suis sauvé parce que j'ai lu que je suis sauvé. » Vous comprenez ? C'est déjà pas mal, ça. Mais c'est pas... Il faut le sceau, il faut être scellé. Quand Jésus déclare ou dépose un témoignage, eh bien, c'est cela l'esprit de prophétie, autrement dit, une révélation. Mais ce témoignage, il ne vient pas sur une personne qui doute ou qui choisit de douter ou qui choisit de ne pas faire confiance. Il ne peut pas venir ce témoignage sur un cœur comme ça. Écoutez bien ça. Aujourd'hui, nous témoignons du ciel, de l'enfer. Pourtant, on ne les a jamais vus. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu le ciel. Il y en a qui l'ont vu, ils ont de la chance. Il y en a qui prétendent avoir vu l'enfer. Bon, ben, ils y ont vu Michael Jackson, paraît-il. Bon, moi, je ne crois pas à ce témoignage-là. Mais je crois que cela existe. Je crois au... Moi, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un en enfer. Le premier qui sera acheté en enfer, ce sera... Les premiers, ce sera... L'antichrist, la bête et l'antichrist, le diable, et puis tous ces... Mais c'est pas encore maintenant, c'est à la fin. Pour le moment, c'est un endroit qui est préparé pour eux et pour ceux qui suivent le diable. En fait, je vais vous dire, je crois que tout le monde va être sauvé, sauf la race de Caïn. C'est-à-dire que même ceux qui n'ont pas entendu l'évangile ici-bas sur terre, ils l'entendront dans le séjour des morts, et ceux qui sont de Dieu, ils l'accepteront. Nous devons prêcher aux vivants et nous devons faire les ordonnances pour les morts. Mais de toute façon, Dieu ne perdra aucun des siens. C'est seulement la race du serpent qui ira en enfer. Alors il y a plusieurs degrés de gloire. Hein. Il y a le degré de gloire comme le soleil, comme la lune, comme les étoiles. Je vous ai déjà enseigné toutes ces choses. Mais on n'a jamais vu. Mais on rend témoignage de ça parce que on a un témoignage de l'esprit que ces paroles sont vraies. C'est l'esprit de prophétie qui nous témoigne que c'est vrai. Personne ne peut connaître les choses du ciel et de l'enfer sans révélation, sans cet esprit de prophétie. Alors souvenez-vous, Jésus a dit « Sur cette pierre, je bâtirai mon église et le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Matthieu 16, 18. C'est qui ce « elle » ? Le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La phrase c'est sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Contre l'église ou contre la pierre ? Moi, je dis c'est sur les deux. Ce « elle », ça peut être l'église, et puis ça peut être la pierre sur laquelle l'église est bâtie, c'est-à-dire sur la révélation. C'est sur la révélation. Pierre, il a eu la révélation. Et c'est sur la révélation que Jésus construit son église. Et l'enfer, les portes du séjour des morts ne peuvent rien contre la révélation. Rien. Ni contre l'église. Matthieu 16, 18 dit donc, sur cette révélation je bâtirai mon église et le séjour des morts ne pourront rien contre l'église ni contre la révélation. Dites-moi qui est ce elle. Expliquez-moi. C'est l'une ou l'autre ou c'est les deux? La révélation, c'est la base de l'Église. Je bâtirai mon Église là-dessus, sur la révélation. Et notre Église, elle a été établie en 1977 sur la révélation. Avec l'équipe de Teen Challenge, on avait été fichu à la porte et on ne voulait pas créer, on ne voulait pas aller dans une Église. On s'y ennuyait comme des rats morts. Après avoir vécu des choses si extraordinaires à Teen Challenge, vraiment poser son derrière dans une Église, c'était affreux. Mais on ne voulait pas en créer une non plus, parce que créer une église pour faire quoi ? Pour faire la même chose que les autres ? Non, il n'en était pas question. Donc on s'est réunis, on priait, tout le monde a déménagé, on habitait tous dans le même quartier, et C'était un soir on mangeait chez un soir on mangeait chez l'autre. On me rappelle, il y avait Bruno Houvet, il y avait Patrick Pastoureau, il y avait Daniel Perrin, il y avait Pierre Lefebvre, il y avait qui encore? Il y avait nous, et puis, je sais plus, voilà. Bon, enfin, c'était le tout début. Et c'était donc en 77, sur une révélation, on a compris que finalement, la première église, c'était une communauté. Et ça, cette révélation-là, ça a toujours été comme ça dans la véritable église de Jésus-Christ. C'était sur des révélations. Amos 3, 7 nous dit que Dieu ne fait rien sans en parler d'abord à ses serviteurs, les prophètes. Alors, ça peut venir d'une manière ou d'une autre, mais c'est quand même Dieu qui révèle. Dans Actes 2, 1, 2, il est dit que Jésus donne ses ordres à ses envoyés par le Saint-Esprit. Voilà. À ses envoyés. Donc ses apôtres, ses envoyés. Et je peux dire, en toute humilité, que j'ai été un instrument entre ses mains jusqu'à présent et pour faire avancer sa cause. Alors que dire? Que dire? Si vous lisez ce que Dieu dit en Joël 2, par exemple, vous prendrez ce soir ou quand vous voudrez le prophète Joël 2, vous lisez ça, ben moi ça ne me concerne pas. Désolé, ça ne me concerne pas Joël 2. Notre situation, elle est différente de celle de tous les peuples qui ont vécu sur la terre avant nous. Elle est très différente. Et en conséquence, eh bien, ces révélations passées ne peuvent pas convenir à notre situation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces prophéties? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces textes? Eh bien, ces textes peuvent nous inspirer, nous corriger, nous aider, nous donner des leçons, nous permettre de tirer des leçons, ça peut nous instruire, mais ces paroles, elles ont été données à d'autres personnes qui ont vécu avant nous. Avant nous. Cependant, dans Joël 2, 32, il y a quelque chose qui nous concerne. C'est écrit, alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Et puis, il nous dit que le salut sera à deux endroits. Deux endroits. Un sur la montagne de Sion, à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Ah, les réchappés de quoi? Hein? Ah, ça, si on n'a pas la révélation, on est bien embêté. On est bien embêté. Dieu est en train d'appeler un reste, il appelle ça des réchappés, et le salut sera auprès de ces réchappés et à Jérusalem. Vous êtes déjà un peu instruit sur ces choses et je ne vais pas revenir sur Internet là-dessus. Or, si Dieu ne donne pas de révélation, où les gens trouveront-ils ces réchappés? Comment sauront-ils où ils sont? Comment les trouveront-ils s'ils n'ont pas de révélation? C'est pourquoi il faut leur expliquer. Ça passe par l'intelligence, puis après ça fait son cheminement dans le cœur. Et si le cœur n'est pas disposé à croire, circuler, y a rien à voir. Les réchappés sont ceux de la véritable Église de Jésus-Christ, celle qui vit la révélation non seulement écrite, mais aussi la révélation parlée pour être vécue, ce qui sort de la bouche de Dieu. Voilà, ce sont ceux-là qui sont à la pointe, qui sont les réchappés. Alors, il faut de l'ordre. Parce que tous disent, nous sommes la véritable Église de Jésus-Christ. Là-bas, au milieu du désert, ils ont monté une scène avec des mannequins. On voit un vieux monsieur assis à une table, et puis il y a des enfants, il y a une dame ou deux, et puis il est en train de leur lire la Bible. Et puis on voit deux femmes qui regardent par le rideau si jamais il n'y a pas des soldats qui viennent pour débarquer. Et puis la dame qui faisait visiter nous a dit « Est-ce que vous voyez quelque chose d'étrange ?» Non, non, à part que la bougie est électrique, mais bon. Mais moi, j'avais déjà visité, donc j'ai rien dit. Mais au bout d'un moment, elle a dit, mais vous voyez pas qu'ils sont habillés avec des jeans? Le monsieur, le garçon, ils sont en jeans. Ah, ben oui, tiens. Alors, elle a dit, ben, vous savez, c'est parce que le jean, en fait, ce tissu bleu, ça a été fabriqué dans cette région, ici. C'est pas américain, ça vient d'ici. Bon, c'est parti aux Amériques, mais puis ça nous est revenu. Mais en fait, c'est nous, ici, dans la région. C'est nous qui avons fabriqué cette toile et qui lui avons donné cette teinte précise Et alors j'ai pris la parole, j'ai dit donc c'est pas James Dean, vous voyez, j'ai pu placer mon petit mot au sujet de James Dean. C'est pas, alors tout le monde a bien rigolé, et puis après j'ai rendu témoignage, j'ai dit mais j'ai appris, je suis allé dans sa ville et j'ai appris que James Dean est né de nouveau et qu'il est baptisé par immersion correctement. Et là je me suis rendu compte que j'étais au milieu de protestants qui ne croyaient pas au baptême par immersion. Et j'ai vu la tronche de la bonne femme, elle était très gentille, très correcte. Mais voilà, ça a passé comme ça, mais je me suis rendu compte, j'ai fait une bourde. Parce que ces gens-là sont certains que le baptême, c'est pour les enfants. Ils ont la même Bible que nous. Vous voyez ? Et puis nous sommes certains d'autre chose. Alors, tous disent, nous avons raison. Ah, et on ne peut pas leur en vouloir, ce que vous voulez, ils sont sûrs d'avoir raison, c'est bien. Or, Jésus a établi dans son Église, il y a de l'ordre, premièrement les apôtres, et en deuxième position, les prophètes. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire que le ministère, il est là pour édifier l'Église, le corps de Christ, pour l'amener à la stature parfaite de Jésus-Christ. Mais c'est d'abord les apôtres, c'est-à-dire les envoyés de Dieu à l'Église. Un apôtre, c'est quelqu'un qui a les cinq ministères, qui arrive et qui peut faire l'évangéliste dans un coin où il n'y a personne. Crée l'Église, ensuite il l'enseigne, il fait le pasteur, il fait le docteur, il fait tout, il est le prophète, et puis après, ben, il peut s'en aller ou il peut rester, ça dépend de son ministère. Et la grande règle des cieux est que jamais rien ne s'accomplit sans que Dieu ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes, en accord donc avec Amos 3 et 7, comme je vous disais. Le problème, c'est qu'il y a toujours des faux prophètes qui se glissent dedans. Et comme nous étions là-bas au musée du désert, j'ai acheté quelques livres. Vous savez que je suis amoureux des livres. En ce moment, je suis un peu en manque puisque j'ai mis tous mes livres, la plupart de mes livres dans des cartons, prêts à partir. Et j'ai acheté quelques livres sur les camisards, ces résistants, ces gens, ces hommes, ces femmes, ces enfants qui ont résisté lors de la persécution sous Louis XV. Et ils avaient aussi leurs prophètes autoproclamés. Et puis qui disait des âneries, disons, des âneries. Il y avait quand même des bonnes choses par-dedans, mais il y avait des âneries. Alors il y en a un qui a écrit un bouquin qui s'appelle « L'accomplissement des prophéties », j'ai la couverture là sous les yeux, ou « La délivrance prochaine de l'Église », c'est-à-dire de la véritable Église. On va bientôt être délivrés. Alors, ouvrage dans lequel il est prouvé que le papisme est l'empire antichrétien, donc le papisme c'est l'empire antichrétien, que cet empire n'est pas éloigné de sa ruine, c'était en 1686, hein, que cette ruine doit commencer dans peu de temps, que la persécution présente peut finir dans 3 ans et demi, après quoi commencera la destruction de l'antichrist, laquelle se continuera dans le reflet dans le reste, pardon, de ce siècle. Donc, en 1600. Et s'achèvera dans le commencement du siècle prochain. Et enfin, le règne de Jésus-Christ viendra sur la terre. Donc, dans les années 1700. Voilà. Ça, c'est un prophète protestant. Un grand prophète, hein. Voilà. Ça a été imprimé à Rotterdam, chez Abraham Asher, en 1686. Voilà. Alors, par exemple, je vais vous donner son nom, il s'appelait Jurieux. Il est donc l'auteur de ce bouquin plein de prophéties. Et déjà, c'est un bouquin qui s'appelait donc « Accomplissement des prophéties ». C'était en mars 1686. Il annonçait pour 1689, la délivrance de l'Église précédée d'un grand tremblement de terre. Ça vous rappelle rien, ça? Voilà, un grand tremblement de terre qui va tout détruire. Voilà. Bon, ben, il n'y a rien eu. Plouf, pchit, comme disait Chirac. Voilà, donc, dans les nouvelles qu'il reçoit des Cévennes, il entrevoit déjà comme un signe du temps de la fin, puisque en suscitant des pauvres montagnards, Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Vous voyez, Dieu a choisi les fous, les malades, les dingos, pour confondre les sages, les intelligents, comme, entre guillemets, moi. Pardon. Cependant, la répression ne faiblissait pas sur les Cévennes, ni dans le Languedoc. Et voilà, les procès, enfin, etc., etc. Je ne vais pas vous lire toute l'histoire, mais voilà, les prophètes, ça se gourre. Les prophètes, ça se trompe, ça se gourre. Et c'est pourquoi, il faut reconnaître la parole de Dieu, il faut faire attention, il faut être à l'écoute. Mais le problème, c'est que les gens croient plus les faux que les vrais. Voilà. Les vrais qui ont fait leurs preuves, hein, qui ont créé quelque chose, qui ont été bénis, qui ont eu des miracles, qui ont créé des églises, etc. Ceux-là, non, on les rejette, c'est des malpropres parce qu'ils sont un peu, des fois, nerveux, je sais pas. Mais par contre, les faux, non. Frères et sœurs, personne dans une église n'a le droit divin de commander aux envoyés de Dieu. Personne dans l'église n'a le droit divin de commander quelque chose aux envoyés de Dieu. Parce que c'est à ces envoyés que Dieu a donné les clés des mystères et des révélations qui étaient scellées. Les envoyés, c'est les apôtres, ceux qui ont créé. Ceux qui s'y risquent à vouloir commander les envoyés de Dieu sans écouter l'ordre établi dans l'Église sont trompés par Satan. Il n'y a pas trois possibilités. Ou alors peut-être la chair, je veux bien. Parce qu'ils n'ont pas été désignés pour ces choses. Et aucun membre de l'Église de Jésus-Christ ne sera désigné pour quelque chose de contraire aux alliances de l'Église selon le Nouveau Testament et les révélations rétablies des croyances qui ont été perdues à cause des ténèbres qui se sont installées pendant les siècles passés. Personne, aucun membre de l'Église de Jésus-Christ ne sera désigné pour quelque chose de contraire à tout cela. Personne. Si vous lisez Apocalypse 2 et 3, c'est pas aux prophètes que l'ange écrit, mais c'est aux envoyés, c'est-à-dire aux apôtres qui ont créé l'Église et qui ont charge, aux anges. Le Seigneur, donc, veut parler à ces gens-là, et ensuite, ces gens-là ont charge de transmettre aux membres. Parce que tout doit se faire avec ordre et par consentement commun dans l'Église par la prière et par la foi. Ça doit se faire par consentement commun dans l'Église. Maintenant, s'il n'y a pas consentement, c'est simple, sortez du milieu d'elle. C'est pas un problème, sortez du milieu d'elle. Maintenant, tous les membres de l'Église ont également le droit de recevoir des révélations, mais dans la limite de leur appel et de leur devoir dans l'Église. Dans la vraie Église de Jésus-Christ, nous estimons que nous n'avons pas à recevoir de révélation de qui que ce soit, homme ou femme, qui n'est ni désigné, ni a donné à cette autorité, et qui n'en fournit pas la preuve suffisante. C'est clair. Maintenant, je n'ai jamais dit, je n'ai jamais enseigné ces choses parce que ça coulait de source, il y avait de l'ordre, tout le monde était bien, gentil, ça marchait bien. Mais bon, maintenant, il faut le dire puisqu'il y a de l'ordre dans la Bible. Il est contraire à l'ordre de Dieu qu'un membre quelconque de l'Église ou qui que ce soit d'autre reçoive des instructions pour ceux dont l'autorité est supérieure à la leur. C'est clair. Or, le prophète est en seconde place. Il n'a pas à prendre autorité d'une façon dure contre celui qui était mis en place par le Seigneur. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'exprimer. Ça ne veut pas dire ça. Je le disais au début et je répète la phrase telle que je l'ai dit au début. Vous et moi, ainsi que tout le monde, pouvons parler de choses spirituelles et exprimer des opinions indéfiniment. Mais ça n'est pas ça l'autorité. On peut s'exprimer. Il y a un très très beau exemple, un très très bel exemple dans la Bible de cela. C'est l'histoire de Jéthro, le beau-père de Moïse, qui a donné humblement un bon conseil à Moïse. Et Moïse a reconnu que c'était bien. Il n'a pas dit, ah ben non, tu n'as pas l'autorité pour me dire quoi que ce soit. Non. Mais par contre, si Jéthro était venu vers Moïse en lui disant, dis donc, tu agis mal, c'est pas bien, c'est à cause de toi qu'il y a ça qui arrive, et c'est à cause de toi qu'il y a des malades, et c'est à cause de toi que ni ni et que gna gna. Moïse aurait tout de suite discerné que c'était pas un esprit du Seigneur, parce que ce n'était pas dans l'ordre, il n'était pas dans l'humilité. Surtout si il lui avait dit j'ai trop, et puis c'est comme ça, puis c'est pas autrement, puis faut pas changer une virgule au nom de Jésus, voilà, bon, vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, si quelqu'un reçoit une révélation, ou la visite d'un messager céleste, quelqu'un de l'Église, c'est toujours pour son profit et son instruction personnelle ou pour l'instruction et le profit de sa propre famille. C'est pas pour l'Église. C'est pas pour la direction de l'Église. Vous pouvez avoir une opinion pour comment faire autrement, pour faire mieux dans l'Église et partager cela, et on peut en parler. Mais vous n'avez pas à dire « ainsi dit le Seigneur » et puis c'est pas autrement. Puis d'accord. Si quelqu'un de l'Église reçoit une révélation ou la visite d'un messager céleste, c'est pour son profit et son instruction personnelle. Il peut en faire part à l'Église si c'est nécessaire, mais dans l'ordre établi dans la Bible et surtout avec humilité et non prétention de je ne sais quel super machin. Maintenant, devons-nous nous borner à ce qui est écrit dans la Bible ? Parce que ça, c'est ce qu'on nous dit partout. Tous les pasteurs disent ça. À ce sujet, moi, je dis que la Bible est la parole écrite de Dieu pour nous, concernant son œuvre depuis le commencement du monde, ou presque, parce que, en fait, on sait que le monde a commencé avant Genèse 1, 2, hein, ça a commencé il y a des milliards d'années. Si on vous demande est-ce que vous êtes créationniste, il faut dire oui, mais, et il faut bien rajouter ce que vous savez à ce sujet, parce que sinon vous allez passer pour un idiot. Les créationnistes, en général, ils disent le monde a 6000 ans. C'est une bêtise monstrueuse. Mais comme on les enseigne pas dans les églises, donc ils savent rien. Mais vous savez. Donc, je dis que la Bible, c'est la parole écrite de Dieu pour nous concernant son œuvre depuis le commencement du monde, ou presque, jusqu'à nos jours qui sont les derniers. Hein, je vous le disais tout à l'heure, les apôtres disaient que depuis l'ascension de Jésus, voilà, nous sommes dans les derniers jours. Maintenant, si je compare ces écrits, la Bible, avec ce que Dieu dit aujourd'hui, eh bien, je dis que ce livre ne transmet pas la parole de Dieu directement pour nous. Dieu a donné des prophètes pour faire cela, en plus de la Bible. Et c'est par la connaissance de la Bible que nous pouvons voir maintenant, dans les derniers jours, si un prophète est vrai ou faux, et que nous pouvons le mettre à l'épreuve. La Bible dit « éprouvez les prophéties pour voir si elles viennent de Dieu ». Et comment ? Bah, par la parole de Dieu, c'est-à-dire par la Bible. Sinon, à quoi bon les prophètes, si la Bible dit tout ? On va chercher le verset qui nous dit dans quelle ville il faut qu'on aille habiter, hein ? Et quand c'est qu'on doit partir, hein ? Mais un prophète, il est sous l'autorité de l'apôtre, parce qu'il y a Dieu a donné premièrement dans l'Église les apôtres, et en dessous, secondement, les prophètes, c'est-à-dire il a mis en premier le fondateur, celui que Dieu a envoyé à l'Église, l'ange de l'Église, et puis après, le prophète. Si maintenant quelqu'un se prétend prophète et n'est pas d'accord avec l'envoyé, eh bien qu'il s'en aille, il n'est pas d'accord. Il dit c'est une hérésie, c'est diabolique, le pasteur est possédé. Mais qu'il s'en aille. Pourquoi il s'en va pas? Il faut qu'il s'en aille, vite. Moi, je serais dans une église comme ça. Pour moins que ça, je suis parti, moi. Pour moins que ça. Si le peuple de Dieu acceptait les révélations qu'il reçoit par une autorité réelle et s'il agissait en conséquence selon les préceptes du Seigneur, eh bien l'Église ne serait pas où elle en est. La force des actes de l'Église serait beaucoup plus importante. La compréhension qu'elle aurait des choses et de ce qui se passe serait bien supérieure, et elle aurait une influence dans le monde, alors qu'aujourd'hui, elle n'en a plus du tout, elle fait rire tout le monde. Vous voyez ce qui est écrit, voici, tu es pauvre, misérable, aveugle et nu, et tu ne sais pas, ça fait rire tout le monde se moque de l'église, ces pauvres nouilles qui vont se venir le dimanche, les bras en l'air, qui se roulent par terre, ou goulou goulou, ou machin, tout ça. Ou alors le pape avec ses jupettes, et puis, enfin, c'est devenu la grosse rigolade. Le monde se moque. À part certaines personnes qui sont absolument admirables, et il y en a dans toutes les églises. L'église doit soutenir les mains de l'envoyé de Dieu, comme ceux qui ont soutenu les mains de Moïse. Vous pourrez trouver ça dans Exode 17, 8, 13. Pourquoi ? Parce qu'il revient à chaque membre de soutenir les mains de l'envoyé de Dieu. De l'aider, de le soutenir, de chercher à le comprendre si on ne le comprend pas, de le soutenir pour que il a été désigné pour diriger les affaires du royaume local ici de Dieu. Il faut le soutenir de façon de sorte qu'il soit renforcé, de sorte que il ait la capacité de poursuivre le dessein de Dieu, l'appel que Dieu lui a donné, et donc l'accomplissement de l'œuvre qui est de ces derniers jours. Et l'œuvre de ces derniers jours, on sait que c'est le rétablissement de toutes choses, sinon Jésus ne revient pas. Il revient seulement au temps du rétablissement de toutes choses. Alors il y a des gens qui le font, qui soutiennent le serviteur de Dieu, puis au bout d'un moment, ils se plaignent. C'est comme s'ils n'avaient rien fait. C'est comme s'ils n'avaient jamais rien fait. Personne, ces personnes-là, il aurait mieux valu qu'ils ne fassent rien du tout, plutôt que de faire un temps et puis ensuite murmurer, etc., etc. Regardez comment Dieu agit avec des gens comme ça dans la Bible. C'est terrible, c'est terrible. Et Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Vous savez, la Bible nous dit de regarder les fourmis. Et l'autre jour, alors que nous étions dans la voiture, en train de, nous venions de quitter le musée du désert, et j'ouvre la radio et je tombe sur une émission. Je n'aime pas tellement France Inter, je trouve que c'est trop gaucho. Mais là, c'était pas du tout comme d'habitude. C'était une émission formidable, et c'était l'invité principal, c'était Bernard Werber, que j'aime beaucoup lire ses bouquins, je vous recommande de lire ça. Et c'est un homme qui a écrit son tout premier livre, c'était Les fourmis. Et puis, alors, il a beaucoup parlé des fourmis, et il y a des études très sérieuses qui ont été faites au sujet des fourmis, et on sait maintenant que dans les fourmilières, il y a trois sortes de fourmis. Il y a celles qui ne font rien, il y a celles qui cassent tout, puis il y a celles qui construisent et qui réparent ce que les autres ont cassé. C'est fou ça quand même, hein? Et Dieu nous dit, il faut que tu regardes la fourmi, il faut que tu t'instruis. Mais bien sûr, parce que il veut qu'on apprenne que, vous avez un groupe de personnes, tiens, pas que dans l'église, mais dans la politique, hein? Vous avez un groupe qui ne fout rien, vous avez un groupe qui essaie de travailler, puis vous avez un autre groupe qui casse tout. C'est toujours comme ça. Vous prenez dans le sport, hein? Vous avez ceux qui font, et puis vous avez ceux qui foutent rien, qui sont assis dans la télé, puis qui disent « Ouais, t'as vu l'arbitre, nanana », et puis t'as ceux qui... Et puis t'as... Enfin bon, il y a toujours ces trois groupes, c'est rigolo. C'est la même chose dans les églises où les membres veulent faire comme ils veulent, et qui ne veulent pas obéir de cœur, qui ne veulent pas croire de cœur. Alors, ne dites pas que vous êtes des disciples de Jésus-Christ, si vous êtes sans cesse en train de vous lamenter, si vous êtes sans cesse en train de faire des reproches quand on vous donne un conseil qui va à l'encontre de vos sentiments. Mes frères et sœurs, on a vécu depuis 1977 en communauté, ça fait 26 ans qu'on vit au château. Vous vous rendez compte, ça fait presque, j'ai vécu presque la moitié de ma vie dans un château. C'est formidable quand même, je pensais à ça l'autre jour. Eh bien, j'espère mieux de chacun de vous. Espérez mieux de moi aussi. Mais aidez-moi afin que je sois mieux. Et j'espère que vous serez encore mieux. Si Dieu m'a nommé, s'il m'a choisi pour être un instrument chargé de diriger cette église, pourquoi ne pas me laisser faire? Pourquoi contester? Allez-vous-en. Pourquoi contester? Pourquoi s'opposer? Qui connaît la pensée de Dieu? Alors, la pensée de Dieu, la Bible, ils sont tous d'accord pour dire qu'elle est plus élevée que la nôtre. Et quand Dieu révèle quelque chose, en général, c'est quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. C'est logique, non? Ben voilà. Et alors, ça choque, et puis ça papote, et ça murmure et tout. Par le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, je m'élèverai en dépit de tout ce qui m'accable, de tout ce qui me barre la route, de tout ce qui s'oppose à mon ministère. Et malgré l'adversité, je sortirai vainqueur en bout de compte. C'est pas de l'orgueil, c'est l'expérience qui me fait parler. Parce que depuis 1968 que je suis chrétien, que je traîne mes guêtres dans ce milieu, eh ben j'en ai vu des problèmes, des histoires et des machins. Mais des comme celle-là, non, jamais. Comme ce qu'on passe là, là, jamais. J'ai jamais vu. Ça, ce coup-là, on me l'a jamais fait. Là, j'ai vraiment été terriblement surpris. Mais je m'en sortirai avec l'aide de Dieu et avec votre aide. Soutenez mes bras. Frères et sœurs, soutenez mes bras. J'étais appelé pour diriger cette église. Je le ferai correctement. Je vous en fais le serment au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu me vienne en aide et que vous me veniez en aide. Amen. Merci Jésus de fortifier nos cœurs et merci mon Dieu de nous instruire dans ces choses afin que nous sachions où on va, dans quelle sorte de choses on va et que nous ne soyons pas surpris en disant « Ah, mais tu m'avais pas dit que ça serait comme ça ». Seigneur, merci de nous instruire. Merci aussi de parler à peut-être un pasteur qui est désolé de voir son église avec plein de divisions, plein de problèmes. Et je te demande mon Dieu de réconforter ces pasteurs et leurs épouses et de les aider à prendre le dessus et à te faire confiance. Seigneur Jésus, je sais que il est bon que nous nous aimions, que nous nous fassions confiance les uns les autres, mais c'est vrai que tu as dit aussi malheur à l'homme qui met sa confiance dans l'homme. C'est très, très dangereux. Il vaut mieux te faire confiance à toi. Merci Seigneur de nous aider à discerner en qui tu vis, afin que nous puissions faire confiance à ce en qui tu vis. Et nous te remercions, Jésus, de nous montrer par les fruits qu'ils portent, si tu vis en eux. Pas simplement des fruits de choses que le monde peut faire, mais des fruits aussi de choses surnaturelles, afin que nous ayons l'assurance que c'est bien toi. Merci, Jésus. Amen. Amen. Bonne nuit. À bientôt.